9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Votre santé, bienvenue pour cette nouvelle matinée santé avec le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour Philippe.
Cardiologue et hypnopraticien formé à la PNL, spécialiste du sommeil et auteur de Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse, où nous allons parler de l'hypertension artérielle aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'hypertension comme un des facteurs de risque de complications liées à la Covid. Même en début de pandémie, on pensait même que ceux qui étaient traités avec des médicaments contre l'hypertension avaient des risques de faire des formes plus sévères de la Covid. Où est-ce qu'on en est quelques mois après ?
Les patients qui ont une hypertension artérielle sévère et déséquilibrée, c'est-à-dire non contrôlée par le traitement médicamenteux ou par les règles, ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, sont plus à risque d'attraper la Covid et de développer des formes sévères.
Donc plus à risque de l'attraper. Oui. Qu'est-ce qui expliquerait qu'ils soient finalement plus susceptibles de l'attraper ?
L'une des pistes, c'est que la porte d'entrée du virus est une protéine donc qui est située à la surface de cellules et qui est plus exprimée au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire et au niveau digestif aussi, ce qui explique les différentes symptomatologies de la Covid. On peut avoir plutôt une atteinte respiratoire, on a des formes digestives et puis on a des complications cardiaques.
D'accord. Et donc ça augmente également le risque de faire des formes graves.
Des formes graves, oui.
C'est une maladie très fréquente, l'hypertension.
L'hypertension artérielle, on estime qu'elle touche 12 millions de personnes en France. On peut considérer que c'est fréquent. C'est compliqué l'hypertension artérielle parce que, alors on la qualifie de tueur silencieux. Parce que dans la majorité des cas, à moins d'avoir une grosse poussée de tension, on ne sent pas que l'on a de la tension. Dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de complications. Et pourtant, si elle n'est pas traitée, elle expose à un grand nombre de complications. L'infarctus du myocarde, donc une artère du cœur qui se bouche. Ce qu'on appelle l'artérite.
Alors, quel est justement le lien justement entre la tension artérielle et le fait qu'une artère se bouche ?
La tension artérielle abîme les artères, la paroi des artères, et ça va favoriser la survenue de plaques d'athérome. C'est l'un des facteurs de risque de cette fameuse plaque d'athérome qui vient boucher les artères. Et en plus, l'hypertension artérielle exerce des contraintes sur les artères. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle des ruptures de ces plaques d'athérome. Et donc, la plaque d'athérome, c'est une dabouillie au sein de l'artère qui est composée de cholestérol, de ce qu'on appelle des cellules spumeuses, qui sont des macrophages qui ont mangé trop de cholestérol et qui en sont morts. Et d'autres petites choses, du calcaire, etc. Et cette bouillie, elle est isolée par une plaque fibreuse. Et quand cette plaque vient à se rompre, cette bouillie rentre en contact avec le sang et crée la formation d'un caillot qui vient obstruer l'artère. Et donc on sait que les poussées d'hypertension artérielle favorisent ces ruptures de plaques fibreuses. Mmh. On peut avoir une atteinte aussi des membres inférieurs, des artères des membres inférieurs, ce qui peut aller jusqu'à l'amputation quand ça n'est pas traité et quand on atteint des seuils critiques. On peut avoir des atteintes des artères du cerveau, qui là vont provoquer soit en se bouchant ce qu'on appelle des accidents vasculaires ischémiques, soit avec des ruptures de parois artérielles, et là on va avoir ce qu'on appelle des accidents vasculaires hémorragiques avec des saignements donc dans la tête. L'hypertension artérielle favorise l'insuffisance rénale aussi en abîmant les capillaires au niveau des reins. Ça favorise aussi certains types de démences, qu'on appelle des démences vasculaires. Si on a plein de petits accidents vasculaires cérébraux, ça finit par abîmer le
dont
cerveau.
Dont on ne se rend pas compte, en fait, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Ça passe complètement inaperçu.
Qui s'enchaîne.
Et au fil des années, on commence à yoyoter.
Yoyoter, ouais, c'est intéressant. Yoyoter. C'est un terme médical très utilisé.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore ? Après, ça favorise aussi certaines arythmies au niveau cardiaque, ça entraîne un épaississement de la paroi cardiaque.
L'arythmie, c'est donc...
C'est le cœur qui bat de façon irrégulière et souvent rapide, et qui est aussi associé à un risque majoré d'accident vasculaire, mais ischémique. C'est-à-dire que ça va favoriser la formation de caillots au niveau du cœur, et si ces caillots partent dans la circulation, ils peuvent monter au cerveau, boucher une artère.
Est-ce qu'on sait pourquoi on devient hyper tendu ? Est-ce que c'est, comme beaucoup le disent, une maladie de société, la maladie du sel ?
Parce qu'avant, les gens... Entre autres, il y a plusieurs choses. Alors, je les divise en quatre familles, en fait. Vous avez la plus fréquente, qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle, et qui est liée à un vieillissement des artères. Donc ça, c'est l'âge. En vieillissant, les artères, c'est comme un tuyau d'arrosage, en fait. C'est quelque chose de souple. Et donc ça permet d'absorber les variations de pression. Et quand ces artères, elles deviennent trop rigides, en fait, on n'a plus cette élasticité. Et donc, on va avoir une élévation de la pression artérielle. Donc ça, c'est la plus fréquente, c'est à peu près entre 90 et 95% des causes d'hypertension artérielle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'hypertension artérielle toxique ou iatrogène, qui est soit le fait d'une mauvaise hygiène de vie, soit induit par la prise de médicaments qui provoque des poussées de tension, soit par des toxiques type amphétamine et cocaïne, qui sont des grands pourvoyeurs d'hypertension artérielle.
D'accord, donc ça c'est la deuxième famille.
C'est la deuxième famille. La troisième, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. Donc secondaire à un problème autre, en général glandulaire, soit la thyroïde, soit les reins, soit les glandes surrénales, comme leur nom l'indique, qui sont situées au-dessus des reins. Et puis vous avez aussi des anomalies au niveau des artères rénales, qui, quand elles sont rétrécies, entraînent des montées de tension. Et vous avez aussi ce dont on a parlé la fois dernière, les apnées du sommeil, qui sont de grandes pourvoyeuses d'hypertension artérielle. Donc là, quand on règle ce problème secondaire, quand on traite l'hyperthyroïdie, quand on traite ce qu'on appelle un phéochromocytome, par exemple, qui est une tumeur des glandes surrénales, on guérit l'hypertension artérielle. Et puis, vous avez la dernière catégorie qui est mon dada et qui est probablement pas partagée par l'ensemble du corps médical, qui est ce que moi j'appelle l'hypertension artérielle émotionnelle, qui a lieu chez les gens qui sont stressés.
C'est vrai qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Hein.
Non, mais j'ai une patiente.
Il n'y a pas consensus là-dessus et tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que le stress, par exemple, fasse monter la tension. Vous l'avez constaté dans votre
moi,
pratique.
Moi, je l'ai constaté, oui, oui.
Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes venu à l'hypnose d'ailleurs, hein, c'est, notamment.
C'est l'une des voies, effectivement.
Ouais. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet blouse blanche pour certains.
Oui, qui est causé par cela. Alors, ce qui est très intriguant, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et donc, les patients vous disent « Ah non, mais moi, ça va normalement, mais j'ai pas peur de la blouse blanche, pardon. » Et pourtant, la tension est élevée. Et quand on les rassure, quand on les laisse patienter 10 minutes au repos, on reprend la tension est normale.
On parle de tension artérielle ou de pression artérielle ?
Alors, le véritable terme, c'est pression artérielle, puisque c'est une mesure qui est évaluée en millimètres de mercure, donc une unité de pression. Mais dans le langage courant, c'est le terme tension artérielle qui est utilisé.
D'accord. Et hypertension artérielle, quand on parle là ?
Quand on a des chiffres trop élevés.
Voilà. L'inverse de l'hypertension, c'est ?
L'hypotension.
Oui. C'est plus rare ?
C'est plus rare. Alors, le problème, ces hypotensions, elles peuvent être induites par les médicaments que l'on donne pour traiter l'hypertension. Et à vouloir, vous savez que le mieux est l'ennemi du bien, donc à toujours vouloir faire baisser la pression artérielle, on peut aggraver les choses et induire des hypotensions qu'on appelle orthostatiques. Et c'est surtout vrai, justement, chez les patients qui ont ces hypertensions artérielles émotionnelles qui sont labiles. C'est-à-dire qu'elles vont varier dans la journée. Il faut bien comprendre aussi, il faut que vos auditeurs comprennent que la tension artérielle, comme tous les paramètres biologiques, que ce soit la fréquence cardiaque, la température, c'est un paramètre qui varie en permanence.
Dans la journée, on n'a pas la même tension toute la journée, c'est ça ?
C'est de minute en minute même. Tout dépend de la pression que va mettre le cœur à pousser le sang dans les artères. Tout dépend du degré de ce qu'on appelle constriction ou relâchement. C'est-à-dire, est-ce que les artères sont contractées ou relâchées? Ça aussi, ça va entraîner une élévation ou une baisse de pression artérielle.
On a plus de tension le matin ou le soir? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui
Alors, classiquement, la
qu'on
nuit...
peut mesurer.
On oppose plutôt jour et nuit.
D'accord.
La nuit, la pression artérielle est plus basse que dans la journée. Et on a des patients qui ont une pression artérielle normale, mais qui ne varie pas entre le jour et la nuit. Ces patients, on les appelle non-dippers. Et bien que la pression artérielle soit normale, ils ont un risque qui est quasiment identique à celui des patients hypertendus non traités.
Et non-dippers, ça veut dire quoi ?
Non-dippers, ça veut dire que leur pression artérielle ne diminue pas la nuit par rapport à la journée.
T'avais dit une pression artérielle normale. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une pression artérielle normale ? Est-ce qu'il y a un bon chiffre à avoir ?
Alors, justement, c'est important ce que vous dites. La pression artérielle est un chiffre. De la même façon qu'on ne traite pas des images en médecine, on ne traite pas des chiffres, on traite des patients. Donc, on a des chiffres qu'on a considérés comme optimaux, normaux, supranormaux, et puis ensuite on parle d'hypertension artérielle de grade 1, 2, 3, en fonction des valeurs. Donc le chiffre optimal, alors il y a deux manières de mesurer cette pression artérielle. Quand on dit le fameux 12-7, ça n'est pas 12,7. On a deux chiffres en fait. On a le 12, donc là c'est exprimé en centimètres de mercure, 12 centimètres de mercure, 7 centimètres de mercure. Le premier chiffre, ou alors on peut vous le donner en millimètres de mercure, ce qui donnera un 12-7, donnera un 120 millimètres de mercure, 70 millimètres de mercure. Ce premier chiffre, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. C'est la pression qui règne dans l'artère au moment où le cœur se contracte. Donc le cœur va propulser le sang dans les artères à une certaine pression, et c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, donc le 7 en l'occurrence ici, c'est la pression artérielle diastolique. Et ça reflète la pression qui règne dans l'artère au moment où le cœur se relâche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur, donc c'est une pompe, et cette pompe, elle est saccadée. Elle se contracte, elle se relâche. Elle se contracte, elle se relâche. Mais notre pression artérielle...
Vous nous faites le bruit aujourd'hui ou pas?
Si vous voulez. Donc ça fait poum ta, poum ta, poum ta, poum ta. Voilà.
Ma journée est faite.
Je suis ravi pour vous alors.
Donc ça, c'est ce que fait le cœur. Hein.
Donc le cœur fait poum ta, poum ta, mais la pression artérielle, elle fait pas poum ta. Elle diminue progressivement, mais elle ne disparaît pas pour autant. Et en fait, bien que le cœur soit pulsatile, on va avoir une sorte d'onde, de vague qui va se propager au niveau des artères. Et donc, comme dans les vagues, on a une crête, un creux. Et donc, cette crête, c'est le premier chiffre, et ce creux, c'est le deuxième chiffre. Donc, 12-7, c'est vraiment optimal. En cabinet, on tolère jusqu'à 14-9. Justement parce qu'il y a l'effet blouse blanche.
14 ans, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir 15, c'est ça que ça veut dire?
Ça veut dire que maximum c'est 14, maximum 9 pour le deuxième chiffre. Si vous avez 145, 95, les deux chiffres là sont au-delà des recommandations.
D'accord. Comment est-ce qu'on peut techniquement mesurer la pression artérielle alors qu'on n'a pas accès à l'artère avec le fameux appareil, là, le tensiomètre?
Alors, on a accès à l'artère.
Où?
Pas avec ces appareils-là, mais on a des appareils qui nous permettent, on met un cathlon en fait avec une tête de pression dans une artère, c'est ce qu'on appelle une pression artérielle sanglante, puisque ça saigne quand on le fait, et là on a une pression artérielle qui est effectivement mesurée in situ.
Mais quand on a le tensiomètre, donc le fameux brassard, hein, pour ceux qui sont encore à la bonne méthode.
Le brassard, lui, va gonfler à une certaine pression. Et quand ce brassard a une pression qui dépasse la pression artérielle et que l'on pose le stéthoscope, enfin on pose le stéthoscope avant, on gonfle le brassard, ça c'est à l'ancienne, et donc il y a un moment où on n'entend plus rien. Et donc quand on n'entend plus rien, c'est parce que la pression du brassard est telle qu'elle écrase complètement l'artère. Donc le sang ne passe plus. Et on va dégonfler progressivement le brassard. Et il y a un moment où l'artère va se réouvrir. Et là, on va entendre le... Et donc, au moment où on entend ce bruit de sang qui repasse dans l'artère, on a le premier chiffre. Ensuite, on a ce bruit qui est pulsatile, là, un peu comme le pumta. Et à un moment, on ne l'entendra plus. Et c'est au moment où on ne l'entend plus qu'on vient choper le deuxième chiffre.
Et alors pourquoi on le fait au niveau du bras et pas du poignet, par exemple?
Alors on peut le faire au niveau du poignet, les autorités, il y a des brassards à tension qui se mettent au niveau du poignet. Ça n'est plus recommandé par les sociétés savantes parce qu'il y a trop de risques d'erreur. Alors on le verra sur la vidéo, mais en fait le secret, c'est de se mettre comme ça avec le brassard ici.
Alors attendez, parce que là on est à la radio, donc il faut nous expliquer ce que vous êtes en train de faire.
Alors vous prenez la main droite, vous la posez sur l'épaule gauche, et voilà, vous êtes en position. En fait, il faut que le brassard soit au niveau du cœur.
Ah oui.
Tout simplement.
CQFD.
Voilà, donc si on le met au niveau du bras, le bras est au niveau du cœur. Si vous le mettez au niveau du poignet avec le poignet pendant, le poignet sera au niveau de la cuisse. Donc ça n'est pas bon. Donc vous posez la main droite, vous mettez le brassard au poignet sur la main droite. Et vous posez la main droite sur l'épaule gauche. Et là, le brassard est au niveau du cœur.
Bien, on parle de l'hypertension ce matin avec le docteur Mathieu Bernard. Si vous avez des questions à poser, bien vous pouvez le faire au standard de votre santé 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle de l'hypertension ce matin, en tout cas de la tension, de la pression artérielle avec le docteur Mathieu Bernard qui est cardiologue et hypnopraticien. Je rappelle que vous avez écrit, docteur Bernard, Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse pour tous ceux qui s'intéressent aux petits neurones qu'il y a dans notre cœur et le lien qu'il y a avec le cerveau. Est-ce qu'on a la même tension artérielle aux deux bras ou pas?
Normalement, oui. Il peut arriver que cette tension soit asymétrique. Et donc c'est normalement un marqueur de risque cardiovasculaire. Donc ça doit inciter à un bilan.
Mais on vous la prend rarement aux deux.
On la prend rarement aux deux bras.
Aux deux bras.
On va la prendre aux deux bras quand la mesure à un bras est élevée. Et encore, c'est pas systématique.
D'accord. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la prise déjà de la tension. Est-ce qu'il faut le faire dans quelle position est-ce qu'il faut être quand on vous prend la tension?
Assis ou allongé, et idéalement en repos depuis 10 minutes. Mmh.
Bien. Est-ce que les hommes et les femmes ont des tensions artérielles qui se ressemblent ou pas? Ou il y a des différences?
Il y a des différences. Les femmes ont en général une tension un peu plus basse.
À quel moment on parle d'hypertension? Donc on peut poser le diagnostic d'hypertension?
Alors, dans un cabinet médical, quand vous avez le premier chiffre qui est supérieur à 14... et ou le deuxième chiffre supérieur à 9.
D'accord. Donc, voilà. À ce moment-là, mais est-ce qu'il faut que ce soit répété plusieurs fois?
Non, oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est le point important. On ne peut pas dire qu'un patient est hypertendu sur une seule valeur. C'est pas possible. Et l'idée, c'est de confirmer cette hypertension artérielle parce que le patient que vous venez de voir a pu éprouver un stress avant, pouvait être en retard et a dû courir, ou alors attendre depuis 30 minutes dans la salle d'attente, et ça l'énerve, parce qu'il a autre chose à faire, et donc la pression monte. Donc, coller l'étiquette hypertendue sur une valeur, c'est quelque chose à ne pas faire. Et le problème, c'est que dès lors que vous avez cette étiquette hypertendue, vous l'avez en général à vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas comme une angine où vous prenez 10 jours d'antibiotiques et vous êtes guéri. Quand on a une hypertension artérielle dite essentielle et qu'on commence un traitement, on va le prendre pour des années et des années.
C'est ça, devient une maladie chronique, c'est ça?
Exactement.
C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas, c'est ça qu'il faut comprendre?
Non, on n'en guérit pas. On a des traitements qui vont normaliser la pression artérielle. C'est pas tant ça, encore une fois, on traite pas un chiffre. Ce que l'on veut, c'est baisser le risque d'événements cardiovasculaires, donc de complications. C'est l'unique raison pour laquelle on va traiter l'hypertension artérielle. C'est pas pour avoir un joli chiffre. Et le problème, c'est que vous recommandez à des patients qui n'ont aucun symptôme, qui ne se plaignent de rien, de prendre un traitement médicamenteux tous les jours dans le but de tenter d'éviter un éventuel problème qui surviendra peut-être même pas. Et donc, cette particularité fait qu'au bout d'un an, un patient sur deux traité pour une hypertension artérielle arrête son traitement. Donc, en général, quand vient la consultation avec le cardiologue, le patient va reprendre 2-3 jours avant son traitement en se disant qu'on verra rien.
Pas vu, pas pris.
Voilà, mais c'est une réalité. Et donc,
c'est dur à suivre, finalement. C'est le cas de souvent des maladies chroniques, quand les gens pensent qu'ils vont mieux ou que... Finalement, ça les gonfle de prendre leur traitement à vie.
Ça se voit aussi dans les traitements psychiatriques où
on sent qu'on va mieux.
On n'est pas bien, on prend son traitement, on va mieux, et comme on va mieux, on arrête le traitement.
Donc, il faut pas l'arrêter, c'est-à-dire que voilà.
Il ne faut pas l'arrêter, non. Parce qu'après,
c'est ça que ça veut dire.
Oui, ça devient plus dur. Alors, si on parle des traitements médicamenteux, on reviendra peut-être sur les méthodes naturelles tout à l'heure.
On verra, parce qu'il y a. C'est vrai que aujourd'hui, quand les gens voient des symptômes, ils vont tout de suite sur Internet pour voir. Quel est l'équivalent naturel du traitement médicamenteux qu'il prenne. Et on verra justement ce qu'on peut faire. Alors on a Ossine qui attend au standard, docteur Bernard, au 01 53 48 3000. Ossine, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour Ossine.
Bonne année à vous, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux.
Bonne Ossine. Année, bonne santé.
Merci, on va essayer. dites-moi, moi je me plains toujours de douleur à la poitrine, mais quand je vais voir des spécialistes, on me dit que j'ai rien du tout. Et moi, j'ai un autre problème, c'est que moi, j'ai des varices, et j'ai vraiment des veines apparentes au niveau un peu sur les mollets, le tibia et pas mal sur le dessus des pieds. Est-ce que vraiment, moi, on me dit c'est un problème dans le sens où le sang coagule à ce niveau-là. Quelquefois, quelques morceaux peuvent se détacher, voire même boucher certaines artères. Et puis voilà, quoi. Donc, au revoir. Donc, est-ce que j'ai essayé le traitement pour fluidifier le sang, mais est-ce qu'à long terme, ça joue sur la santé? Est-ce que, parce que moi, j'ai un cousin anesthésiste et qui m'a dit que tout médicament a une substance chimique, tout ce qui est chimique est étranger au corps, donc néfaste. Le corps des médicaments, en fait.
D'accord. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Pour les douleurs dans la poitrine, tout dépend de ce que, de qui vous avez vu comme spécialiste et des examens qui ont pu vous être faits. Donc il faut, à mon sens, pour cela, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, voir un cardiologue et faire ce qu'on appelle un test ischémique pour rechercher une souffrance au niveau des artères du cœur qui pourrait expliquer ces douleurs dans la poitrine. Après, les douleurs dans la poitrine, ça peut être aussi un problème digestif. On a l'estomac qui est juste sous le cœur et l'œsophage qui est juste derrière. Et la sensibilité nerveuse, elle est moins discriminante au niveau des organes internes. Et ce que votre cerveau analyse comme une douleur cardiaque, ça peut être finalement une douleur digestive. Ensuite...
Ce que me dit le médecin, excusez-moi de vous couper.
Non, je vous en prie.
Parce que j'ai aussi une bactérie dans l'estomac. Et à savoir, donc d'après lui, ça viendrait pas du cœur, mais plutôt de l'estomac.
Alors ça, c'est très simple, on traite l'estomac, si les douleurs disparaissent, c'est que ça venait de l'estomac, si ça persiste, c'est que ça ne vient pas que de l'estomac, et donc il faut chercher ailleurs. Ensuite, pour ce qui est des veines, il faut bien que les auditeurs comprennent qu'on parle d'hypertension artérielle, donc on s'intéresse aux artères, et que les varices, qui sont des dilatations des veines des jambes, ça n'a rien à voir avec l'hypertension artérielle. Ensuite, vous me parlez de caillots, donc là on est plus sur ce qu'on appelle des phlébites, c'est-à-dire des inflammations des veines. Et effectivement, quand on a un caillot dans une veine, donc ce qu'on appelle un thrombus, ce thrombus peut partir dans la circulation, donc il va partir dans la circulation veineuse, il va remonter jusqu'au cœur, donc oreillette droite, ventricule droit, et il va partir dans l'artère pulmonaire, qui se divise en deux branches, l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Et donc, ce caillot finira par obstruer une artère pulmonaire et réalisant ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Donc, si vous avez déjà fait des phlébites, effectivement, vous devez prendre des traitements qui fluidifient le sang, ce qu'on appelle des anticoagulants.
Ce que vous faites, hein, si j'ai compris, aussi, non ?
Mais en fait, depuis 5 ans, je ne prends plus ça. Donc,
Ah bon, vous ne les prenez plus.
Alors, c'est pas bon.
Si, ce n'est pas que ce soit bon ou pas. En fait, si vous avez fait une phlébite, la principale question, c'est est-ce qu'il y a un facteur favorisant ? Est-ce qu'il y a une cause identifiée à la phlébite ? Si la réponse est oui et que l'on peut supprimer cette cause, c'est par exemple quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qui est resté alité. Normalement, on fait la prévention avec le traitement anticoagulant, mais parfois il peut y avoir des cafouillages. Et donc là, si c'est dans ce contexte-là que vous avez fait une phlébite, on a un facteur favorisant. Ce facteur favorisant est suppressible, donc il n'y a pas besoin de traitement anticoagulant au long cours. On va en donner pendant 3 mois le temps du traitement et après on arrêtera. Maintenant, si on n'a aucune cause et que vous avez fait un seul épisode en 5 ans. Bon, vous ne devriez pas en refaire un, mais on sait que lorsque l'on ne trouve pas de cause à ces phlébites, dans la majorité des cas, on en refait dans les 2 ans qui surviennent. Donc là, on est obligé de prendre un traitement anticoagulant au long cours pour éviter justement ces phlébites. Le problème, c'est pas tant la phlébite en elle-même, c'est vraiment la conséquence de la phlébite qui est cette embolie pulmonaire.
D'accord, parce que moi, en fait, je me suis déjà fait opérer 2 fois. On m'a retiré de mauvaises veines. Mais j'ai entendu un médecin qui m'a dit et qui a dit à la radio que des veines malades, ça n'existait pas. Donc les veines sont jamais malades et il peut y avoir des problèmes, mais en soi la veine elle n'est pas malade. Il y a des médecins qui les enlèvent pour les revendre. Mais certains médecins sont ignorants de ça. Hein. C'est pas de quelquefois c'est pas de leur dépend. Mais normalement les veines, non. Comme disait le médecin, on les garde pour plus tard, pour une coronaire quand on sera plus vieux. Mais une veine malade ou une veine non malade. il faut expliquer ce que c'est. Le médecin lui-même, il dit non, il n'y a pas de veine malade, ça n'existe pas.
Faut pas écouter savoir ce que disent les médecins à la radio aussi.
Non, à part le docteur Mathieu Bernard.
Non, en fait, vous avez deux types de veines. On a les veines qu'on appelle superficielles et les veines profondes. Les veines superficielles, elles drainent 30% du sang et les veines profondes, elles drainent 70% du sang. Là, je vous parle des jambes et des cuisses. Les varices, ce sont les veines superficielles. Donc celles-là, on peut les enlever. Il n'y a pas de problème. Et les varices, ce sont des veines qu'on appelle incontinentes. Elles se dilatent, elles ne font plus suffisamment leur travail. Et c'est d'une part disgracieux. On a ces veines dilatées sur les mollets, c'est pas toujours très beau. On a les veines apparentes et puis on peut avoir des taches sur la peau. Et en plus, ça occasionne des douleurs au niveau des jambes. Donc celles-là, on recommande, quand on a ces douleurs et quand on trouve que c'est disgracieux, de les enlever. Maintenant, les varices ne peuvent pas être utilisées pour faire des pontages. On ne peut utiliser que des veines qui ne sont pas abîmées. Donc je vous rassure, il n'y a pas de trafic de varices. Lorsqu'on enlève ces veines, en général, on les jette à la poubelle.
Bien. Bah, écoutez, merci aussi pour votre question. On a Sarah au 01 53 48 3000. Sarah, bienvenue.
Bonjour, bonjour Philippe, bonjour docteur, bonjour les auditeurs et auditrices.
Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah.
Bonjour. Alors, moi je ne sais pas où me situer. Effectivement, j'ai une ASCA, une hypertension artérielle. Je pense qu'elle est due il y a une dizaine d'années suite à une série d'essais de mes parents déjà. Ensuite un frère, ensuite un beau-père, ensuite c'était des maladies de mes enfants. Donc j'avais tout le temps l'estomac noué. Donc on a trouver quand même une tension qui varie en 13, comme vous dites, 13,9, 14,9, et parfois même elle est montée à 15,9,5. C'est dans ces axes-là. Et donc, je ne sais pas exactement où je vais me situer par rapport à cette tension. Je me fais suivre chez un généraliste qui est déjà parti. Il m'a mis sous condésartan, sous 12,5, à l'hydroxychloroquine. Et il y a 2 années de cela, elle s'était stabilisée, mais 2 années de cela, mon mari a eu une grave maladie, c'est moi qui ai suivi les choses. Et donc la tension, la scie est montée et remontée, et parfois elle était assez normalisée avec le traitement. Sauf que les choses ont très mal passé, je viens de perdre mon époux. Donc je me dis que cette tension que j'ai, est-ce qu'elle n'est pas due aux différentes variations de stress, d'angoisse? Et que peut-être le fait du départ brutal de mon époux et que j'ai les 3 enfants sur mon dos, chacun a un souci de santé, d'avoir peur de la responsabilité qui me guette à tout bout de chemin, est-ce que ma tension à ce moment-là est due à toute cette mascarade de choses qui m'arrivent?
Alors, Sarah, on va laisser le docteur Bernard répondre à votre question. Est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre la tension et toute cette série d'événements dans la vie de Sarah?
Je commencerai par vous présenter mes condoléances, Sarah. Et je vous réponds tout de suite. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dès lors que vous avez l'étiquette hyper tendue, on réfléchit plus, en fait. Vous êtes sous traitement, si vous êtes sous traitement équilibré, on dit que tout va bien. Et puis, si c'est déséquilibré, on va changer le traitement, l'augmenter ou changer de molécule. Je pense, et je vais peut-être défrayer la chronique, je pense que dans certaines situations comme celles que vous avez pu vivre, je pense qu'il faut réévaluer. Je pense qu'il faut, de temps en temps, quand la tension est normale, arrêter le traitement et voir ce qui se passe. Et j'ai une patiente comme ça qui a été mise sous traitement antihypertenseur alors qu'elle venait de perdre sa maman. Elle consulte et on trouve des chiffres tensionnels élevés à plusieurs reprises et donc on la met sous traitement. Moi, quand je la vois, elle a vraiment une tension qui est extrêmement normale. Quand on voit un cardiologue pour la première fois, on est toujours un petit peu flippé, on ne sait pas forcément sur qui on tombe et on flirte plutôt avec les 14. Mais quand on a 11,8 de tension pour une première consultation chez un cardiologue sous traitement, c'est peut-être que le traitement est un petit peu trop fort. Et donc chez cette patiente, on a arrêté les médicaments puisqu'elle n'était plus dans un état de stress. Le deuil était fait, ça faisait plusieurs années qu'elle avait perdu sa maman. Et en fait, il s'avère qu'elle n'a pas besoin de traitement. Donc peut-être que c'est votre cas, mais si vous venez de perdre votre époux, c'est encore frais et donc je pense que là il faut continuer le traitement, mais le deuil se faisant, ce serait bien de réévaluer, voir si oui ou non. Alors mais peut-être
combien
pas arrêter.
De temps à peu près vous estimez le tout.
On parle de deuil pathologique au-delà de 18 mois. Mais après, il y a pas. Donc, on se dit qu'un deuil normal, c'est 18 mois. Après, c'est à vous de voir. Dès lors que vous sentez que vous n'êtes plus stressé, c'est bien de voir votre médecin traitant, de voir quels sont les chiffres tensionnels, et puis peut-être pas d'arrêter le traitement, mais de voir si on ne peut pas diminuer les doses, ou si, comme vous avez une association, peut-être arrêter l'un des deux et voir ce qui se passe. Voilà. Mais
j'ai diminué de moitié. Je le prends juste le matin. Sauf que je n'ai plus de médecin traitant, donc j'y vais à la pharmacie pour l'acheter directement. Mm-hmm. Et ils m'ont conseillé au lieu de l'acheter à chaque fois sans avoir un nouveau avis médical, il serait souhaitable et préférable d'aller voir d'abord un cardiologue pour faire un peu le point. C'est ce que je suis en train de réfléchir, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'aller voir un cardiologue ou reprendre contact avec un autre médecin généraliste parce que les nôtres, ils sont tous partis en retraite. Voilà.
Alors, oui, c'est effectivement la difficulté en France, c'est que c'est un autre problème ça, mais la France est en train de devenir un désert médical. Donc oui, il faut de toute façon que vous ayez un médecin traitant. Ensuite, quand on est hypertendu, il faut se faire suivre et faire régulièrement des Doppler pour vérifier les artères du cou, les artères des jambes, ce qu'on appelle des tests ischémiques pour vérifier les artères du cœur, bien surveiller les reins. Il y a tout un tas de choses à faire, coordonnées entre le médecin généraliste et le cardiologue.
Voilà Sarah, ce que le docteur Bernard pouvait vous dire. Merci pour votre appel. Dans un instant, vous pourrez continuer à poser vos questions au docteur Mathieu Bernard au 01 53 48 3000. On parle de l'hypertension ce matin.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on parle de l'hypertension avec le docteur Mathieu Bernard, qui est cardiologue et hypnopraticien et qui est auteur de Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. Avant de prendre vos appels, puisque vous êtes nombreux, 01 53 48 3000, quels sont les aliments qui favorisent une montée de la tension et qu'il faudrait éviter?
Anis étoilé, réglisse, principalement. Le Pacifique, on n'a pas le droit de faire de pub à l'antenne.
Le Pacifique, c'est une boisson sans alcool,
ouais,
c'est ça.
Vous ne faisiez pas des pubs dans les années 80
le Pacifique,
avec,
ouais.
Avec la jolie jeune femme en maillot de bain qui sortait de l'eau sur le ponton.
Enfin, s'il y a que le Pacifique, personne ne boit du Pacifique, il n'y a pas vraiment.
On n'en boit plus, non.
Bon, donc voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il y a d'autre
qui... L'anthésite, qui est une boisson qui a été développée pour éviter que les cheminots ne sombrent dans l'alcool il y a des années de cela. Donc c'était une boisson anisée aussi.
Avec des gouttes, enfin, petites gouttes.
Il me semble que c'était comme ça, ouais. Mais alors, très souvent, je demande aux patients, est-ce que vous prenez de l'anthésite? Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, donc vous n'en prenez pas.
Donc c'est passé de mode. Quoi d'autre?
Dans les aliments, on peut presque mettre le tabac. On sait que le tabac, l'alcool font monter la tension. Mmh. Et puis, le piment un petit peu. Ouais.
D'accord. Et le fait de manger salé, alors?
Et le sel, oui. Alors pas chez tous les patients, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations de la société française, enfin de la France, en termes de consommation de sel, sont plus élevées que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont elles-mêmes plus élevées que les besoins naturels. Les aliments sont suffisamment salés et naturellement salés. Il faut savoir que le sel a été développé pour conserver les aliments, mais depuis l'avènement de Pasteur et de Picard. On n'a plus besoin de sel, seulement comme c'est un exhausteur de goût et que tout ce qui est plat raffiné, alors dans le sens transformé, pas dans le sens raffinement, tout ce qui est donc plat transformé, c'est pas forcément très bon, donc on rajoute beaucoup de sel pour apporter du goût.
Exhausteur de goût, donc.
Voilà, et donc le problème, c'est qu'on développe les hypertensions artérielles avec cela. Moi, je suis toujours choqué au restaurant. Enfin, maintenant, je ne le suis plus. Mais quand j'y allais, vous avez l'assiette qui arrive et les gens ne goûtent même pas le plat, prennent la salière et larguent à main nue, répandent la poudre blanche sur leur assiette. Mmh. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont habitués à manger salé. Pour cela, il va falloir remiser la salière et remplacer tout cela par des épices, des herbes, des condiments. Pas de sel et pas de sel de régime, c'est bourré de potassium, c'est une cochonnerie aussi.
Et quand on parle de médecine naturelle, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme ami de la tension?
Alors, comme ami de la tension, mais pas du diabète, on a 400 grammes de chocolat noir par jour.
Ah oui, 400 grammes, c'est pas mal. C'est...
Les études ont été faites sur 400 grammes de mémoire. Donc ouais, c'est beaucoup. C'est du noir, hein, pas du chocolat au lait. Vous avez la vitamine C, la vitamine D, le magnésium, le coenzyme Q10, l'ail, plutôt l'ail noir, mais...
Non, je regardais, on regardait tout à l'heure, mais ça vaut une blinde.
Ça vaut une fortune. Ouais. Mais l'ail, même l'ail blanc, c'est... Ouais. C'est bien pour faire baisser la tension. Là, il y a une vingtaine de vertus thérapeutiques.
Il faut le manger cru ou il faut le... Ou cuit, ça a les mêmes vertus?
Non, ça agit. Les deux agissent, mais vous pouvez le prendre en complément alimentaire. Vous avez dans des herboristeries une association coenzyme Q10, ail, qui fonctionne très bien.
D'accord.
Et puis, vous avez l'extrait de feuilles d'olivier et les infusions de fleurs d'hibiscus. Qui font baisser la tension également.
D'accord.
Donc voilà pour les versants naturels.
D'accord. La betterave, alors le jus de betterave,
et le jus de betterave aussi,
qui est très à la mode aujourd'hui.
Le jus de betterave, ça fonctionne bien.
Bien.
C'est un peu diurétique.
Alors Mina est avec nous. Mina, 01 53 48 3000. Bienvenue Mina.
Oui, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour docteur Bernard.
Moi, bonjour,
je
Mina.
Vous appelle en fait, c'est pour ma mère qui est sous traitement alors depuis 22 ans et je rejoins l'auditrice précédente, c'est suite au décès de mon père. Et donc elle est sous traitement et nous de notre côté, on ne voit elle est complètement à l'ouest. Ça veut dire qu'elle est très fatiguée, elle ne peut pas marcher, elle a pris du poids avec les années, elle est pourtant suivie dans une clinique renommée pour ça, mais on a l'impression qu'on la gave de médicaments, que c'est trop fort, et en fait, c'est limite un zombie. Donc, on a un peu peur de la faire changer de médecin, on se dit, est-ce qu'il y a un mauvais diagnostic ? Enfin, il y a tout ça, et on comprend pas ce qui se passe, et à cela s'ajoute le côté, les inconvénients, entre guillemets, diurétiques, parce que le matin, elle ne peut pas sortir. Elle passe sa journée aux toilettes. Donc elle fait, enfin, elle urine quoi. Elle ne peut pas. Si vous lui donnez un rendez-vous à 9h du matin, elle ne pourra pas être là. Et elle fait aussi de l'apnée du sommeil. Donc elle a tous les facteurs. Ça va faire 22 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on est un petit peu désespéré parce qu'elle peut pas avoir une vie normale alors qu'elle pourrait.
Elle est traitée pour ses apnées du sommeil?
Oui, elle dort avec un respirateur.
D'accord.
Elle dort avec un respirateur. Et on sent aussi, quand elle parle, qu'il y a peut-être un manque, bon, je suis pas médecin, hein, mais qu'il y a un manque d'oxygène. Donc, il y a tous ces facteurs, une prise de poids, alors qu'elle ne mange pas beaucoup. Et, par exemple, vous voulez aller prendre, on va prendre un café ensemble, elle va être dans la voiture pendant une demi-heure. On va marcher ne serait-ce que 10 minutes et elle va vouloir s'asseoir parce qu'elle est très fatiguée.
D'accord. Elle a pris combien de kilos?
Oh là là, on a pris au moins, allez, 25-30, hein, facile. Hein.
D'accord. Donc 25-30. Si elle a par exemple 17 de tension, elle perd 30 kilos, automatiquement elle redescend à 14. Donc la prise de poids majore l'hypertension artérielle, ça c'est le premier point. Vous soulevez un problème très important qui est en fait la tolérance du traitement. Et manifestement chez votre maman, il y a un problème de tolérance. Donc si problème de tolérance il y a, il faut réévaluer le traitement, il faut changer le traitement de façon à ce qu'elle tolère ses médicaments. Il y a ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque et donc elle doit être évaluée en permanence. Il y a ces deux balances, la balance bénéfice-risque et la balance tolérance-intolérance du traitement. Il faut que le traitement soit efficace, pertinent, et il faut que le traitement soit bien toléré. Ça ne semble pas être le cas chez votre maman, donc il faut une réévaluation. Et si vous estimez que votre médecin ne souhaite pas le faire, dans ce cas-là, vous pouvez prendre un deuxième avis.
Elle est suivie dans une clinique spécialisée dans le 93 qui sont bien réputées, mais à chaque fois qu'elle y va, on lui dit que ça va bien. Et nous, c'est pas ce qu'on voit.
Alors il faut le dire.
Donc
il faut le dire.
Ouais, mais je pense aussi, oui, comme vous le dites, le deuxième avis reste important, mais on n'a pas clairement avoir une mère qui dort constamment, qui est tout le temps fatiguée, qui peut rien faire. Enfin, c'est pas. Alors, le but.
Après, il faut voir aussi si la machine pour les apnées du sommeil est bien réglée. Quelle est la tolérance? Est-ce que votre maman la porte bien? Il y a plein de choses à réévaluer en tout cas.
D'accord. Écoutez, très bien. Mais écoutez, je prends toutes ces informations. Et juste une petite question, je ne sais pas si ça se fait de vous poser la question, mais vous consultez en région parisienne, c'est ça?
Je consulte en région parisienne,
très
oui.
Très bien, très bien. Bon, bah, écoutez, c'est noté. Merci pour ces informations.
Je vous en prie. Voilà, et vous avez répondu à la question pour tout le monde. Avec un bon moteur de recherche, vous devriez pouvoir trouver le docteur Mathieu Bernard. Merci Mina.
Merci bien, au revoir.
Au revoir. Alors, on a Amina qui est avec nous. Amina. Amina.
Oui, bonjour.
Bienvenue Amina.
Oui, voilà, je voulais poser... Bonjour docteur Bernard.
Bonjour Amina.
Oui, bah écoutez, je vous écoute beaucoup quand vous passez à la radio. Et je voulais vraiment venir en consultation pour avoir un diagnostic un peu plus approfondi.
Ben, je vous attends.
Oui, je vais venir avec le Covid et tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué, mais bon, je vais quand même faire l'effort de venir. Voilà, je vous explique mon cas. Je suis suivie, on m'a diagnostiqué déjà à 53 ans un diabète, un peu plus tôt à 51 ans, ça fait deux ans que je suis traitée. À 51 ans, une tension par hasard, qui était de 15-9, en consultation comme ça, chez mon médecin. Et après, le médecin m'a conseillé d'aller voir un cardiologue, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'appareil avec, vous savez laquelle, avec Andor la nuit pour mesurer le tensiomètre. Oui, voilà.
La MAPA.
Oui, voilà, c'est ça. D'accord.
Alors, la MAPA pour tout le monde, parce que c'est...
Ça n'a rien à voir avec les gants du même nom, c'est l'acronyme de mesure automatique de pression artérielle. Et donc, c'est un appareil que vous portez 24 heures et qui va mesurer 4 fois par heure dans la journée, 2 fois par heure dans la nuit, la pression artérielle, ce qui permet d'avoir un vrai relevé, ce qu'on appelle un vrai profil tensionnel, et qui permet de confirmer vraiment le diagnostic d'hypertension artérielle en ne se basant pas sur une seule mesure.
Alors, Amina, on a 2 minutes avant la fin de l'émission.
Oui,
quelle est votre question?
J'ai un traitement, en fait, je me posais la question... Est-ce que tous les parce que comme en vous écoutant, j'ai passé ces 3 dernières années avec un décès, avec des émotions un peu très fortes, les mariages de mes filles, enfin plein de choses émotionnellement très très fortes. Je me pose la question, j'ai un traitement, j'ai Coveram 5-5. Et je me posais la question, est-ce que c'est le bon traitement, parce que je l'ai changé 2 fois et je vois que ma tension n'est toujours pas stabilisée en fait. Voilà.
Alors, la réponse est très simple. On rebondit sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Tolérance, efficacité. Est-ce que c'est le bon traitement? Si vous le supportez bien, on a une première partie de la réponse. Et si les chiffres tensionnels sont normaux, on a la deuxième partie de la réponse. Manifestement, chez vous, on n'a pas la deuxième partie de la réponse. Donc, c'est que ce traitement ne vous convient pas. Peut-être que c'est le bon traitement insuffisamment dosé et qu'il faudra augmenter les doses. Ou peut-être qu'il faut changer de famille de médicaments. Ou peut-être que vous n'en avez pas besoin.
Voilà, donc ça laisse plusieurs possibilités. Alors, on n'a pas plus de temps pour développer Amina. En tout cas, vous pouvez toujours rechercher grâce à Google le docteur Mathieu Bernard. Merci pour votre appel. Docteur Bernard, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous avez publié Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurrefm. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.